Leïla Kadoumou, Morgane Cadignan, Guillermo Guillis, Tristan Lopin, Tanguy Passureau et nos invités Agnès Surfel et Pascal Arbillon. Ravi de vous retrouver. Ça va, Tristan?
Ça va, j'ai une toux asthmatique à côté des allergies. Non, non, c'est juste que je suis allergique au pollen.
Ah, c'est pollen?
Ça, ouais.
Ou à
ça,
moi?
Ça a été non, aspiré. Moi, ça je suis hyper allergique.
Ça a été quoi?
Aspiré il y a au moins 15 jours, facile, je comprends.
Tu parles de la moquette ici, c'est ça?
Non, je suis un peu ému de vous retrouver, évidemment.
Mais ouais. Le pollen, ça te fait quoi? Ça te fait éternuer?
C'est, je suis allergique, ouais, pollen, graminé, puis aussi un petit peu à l'herbe. Donc là, on est vraiment sur une période dans laquelle j'ai envie de crever.
Tu peux vider tes poches, Morgane, parce que tu files.
Le truc gratos.
Non, celle-là, par contre, je peux.
Allez, yes.
Tu files une allergie.
Bisous, maman.
En fait, on se sert de Tristan Lupin dans les aéroports pour repérer les mecs qui arrivent.
J'ai comme les petits chiens.
Les yeux qui pleurent, ça va être une grosse crise.
Un Lupin douanier.
On n'exploite plus les chiens. Les chiens, pour
faire les chiens.
Les chiens. On n'exploite plus les chiens.
Fais tourner le chemin. Bon,
ah,
c'est donc, vous l'avez compris, la reprise, mais c'est comme à l'école. Hein.
C'est tout noir.
Si tu vois flou.
Oui.
C'est la reprise donc de cette bande originale avec On sourit pour la photo, le film le premier, je crois, de François Usan et Pascal Arbillot, Agnès Surcel sont nos invités. Et comme on parle de cette actualité en blind test, je vous propose. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je sais même plus ce que c'est, je l'ai fait il y a longtemps. Ah, c'est ah.
Bien. Leïla, ZZ Top?
Non.
Morgan, Offsprings?
Non.
Guns N' Roses?
Alors non, on est dans l'idée, mais dans l'idée de la surdité en plus.
La surdité?
Aerosmith, non?
Non.
Ah, comment?
Enfin bon, Leïla, si tu les fais tous, je sais pas.
En même temps, elle a la playlist hard rock Spotify.
Je suis là-dedans.
J'ai dit.
Je baigne là-dedans.
Bien sûr, on l'a déjà placé ici, ce groupe, et j'ai déjà fait la vanne de la surdité.
C'est un.
Comment vous dites sur anglais?
C'est
Death Leppard.
Ah ouais, là.
Ah,
c'est quoi? Death Leppard. Et ça s'appelle Photographe, puisque comme ça vous avez le thème. Oh, vous avez souffert, hein.
C'est un truc de Daniel, ça.
Ah, ça aurait été un truc Tanguy aussi.
Michel Delpech, genre.
Non, du tout. En anglais.
Jonas?
Ah non, pardon.
Pas du tout.
Les Bee Gees?
Non.
Les Beatles?
Alors, c'est l'un des quatre.
Paul McCartney.
Non.
George Harrison.
Ringo.
John Lennon.
Ringo, oui.
C'est du mal.
Que quatre, on a fait les quatre. C'est vraiment absolument scandaleux, quoi.
J'aurais dû dire vivant, déjà, ça aurait réduit le champ des possibles.
Moi, je sais pas lequel est vivant. Ah, si, d'accord.
Ringo et Paul.
Oui. Ah, et l'autre, c'est quoi? Il manque.
Il manque John et
John, je suis au courant, mais l'autre, c'est quoi déjà?
George Harrison.
Oh, le moment de solitude.
Je sais, ouais, mais c'est quoi le quatrième?
George Harrison.
George.
Ah, George, et voilà. Et oui, bah oui, c'est vrai que ça passe si longtemps. Pardon.
Qui chante ça?
Leïla, Maurice Chevalier.
Non.
Si la photo est
là, c'est Barbara.
C'est bien beau.
Non, c'est Barbara.
C'est moi qui
ai. Si la photo est bonne.
Regarde la vidéo.
Tristan.
Pour ma mère, la vidéo, elle dit quoi en régie?
C'est Barbara.
C'est Barbara, c'est cadeau.
La photo est bonne.
L'idée est de l'accueillir, Tristan, dans cette bande originale.
On laisse pas gagner les enfants, enfin. C'est pas comme ça le jeu. Ça marche pas comme ça.
J'ai 35 ans dans 10 jours.
Et alors, je suis beaucoup plus vieille.
Le titre, c'est toujours photo.
Leïla, Céline Dion?
Non. Pas loin.
Ouais.
Lara Fabian?
Non.
Isabelle Boulay?
Pas loin.
Hélène Segarra?
Simone Badi?
Non, pas. Bah, en anglais.
Chime and Buddy.
Simone Badi en anglais?
Oh, cette vanne.
C'est un mec qui chante.
On n'entend pas du tout.
Oui?
C'est un mec qui chante. Ouais. Bah, pas loin de Céline Dion, un mec.
Carrière mondiale.
Ed Sheeran.
Exactement.
Ah ouais. Comment t'as eu peur de moi là?
Bah ouais, je me sens sur la sellette.
Ah pardon. Je marque un point dans la différence, mais générale.
Ouais, tu as pris un chute de prof.
Je me suis pris un chute, ouais.
T'as marqué le point dans la différence générale, on est d'accord. Mais Tristan,
c'est pas grave. Tristan, dans cette émission.
Tristan, non, c'est pas ça. Il a essayé de parler et t'as là qui a fait chut. Et il a regardé, mais comme si une voiture arrivait à fond devant lui. T'as eu peur?
Bah ouais, mais elle me fait peur.
Elle est impressionnante.
T'es pas le seul.
Et c'est comme ça que ça marche.
Qui chante? Ils sont deux. L'un des deux suffira à marquer le point. Presque.
Pascal Obispo.
Non, anglais.
Simon & Garfunkel. Here's a little story I gotta tell about this boy I know so well. Back in the ah oui, bah oui. C'est...
Évidemment.
Ouais, bah, c'est... Connaît, hein.
Mais c'est pas Ariana Grande.
Non.
Non, c'est... Tu sais, c'est...
Ah, t'étais tellement pas loin.
Mais Justin Timberlake, je sais pas qui.
On connaît qu'elle, là.
Oui. Non.
Non, je crois qu'on connaît pas que
c'est
elle.
C'est Dido, c'est quoi,
c'est... Non, c'est pas Dido, c'est pas la mode
Dido,
là.
Bah, je sais pas qui ça peut être.
Un petit indice. Camila Cabello.
Et plus, non, plus tard...
Taylor Swift.
Plus. Plus que...
Que Taylor Swift.
C'est pas Britney.
Ouais, mais oui, on l'a... Plus tard que Taylor Swift.
On me donne une information, people, elle est enceinte.
Mais c'est pas Rihanna,
c'est la voix de Rihanna.
J'aurais pas connu.
J'aurais pas connu, je me l'ai écouté, ça ressemble pas trop.
Oh bah c'est les hormones, ça lui change.
Non, mais attendez, la tristesse, du blind test. Vous ne reconnaissez pas la musique, on vous dit elle est enceinte, là tout on fait Rihanna.
Non, parce que je reconnais pas sa voix
de Rihanna.
Je trouve qu'on la reconnaît
un
pas
peu jeune.
On ne reconnaît pas des masses, mais il y a des petits moments où on reconnaît.
Ouais, c'est droit d'autotune.
Enfin, les musicologues.
Je lui en parlerai à Rihanna, je lui dirais qu'on la reconnaît pas sur ce
avec
morceau.
Avec Will I Am.
Ah.
Qui chante ça? Ah, vous avez compris que.
Dans le clip,
ouais, c'est le. Il y a de la photo.
On connaît ça. Ah, mais tu vois, j'aurais dit Rihanna.
C'est super bon, quoi.
C'est le début d'une fête full.
C'est super bon, quoi.
Si on faisait un flashback, on revenait.
J'ai toujours rien.
Leïla, Leïla, Matt Pokora.
Oui,
oui, c'est juste une photo de toi. Juste une photo de toi.
Ah là là. Alors attention, pour l'instant, il y a 2 points pour Leïla, 1 point pour Morgane, 1 point pour Tristan, 1 point pour Guillermo. Tout se joue maintenant.
Quelqu'un m'a demandé
William
Scheller.
Oui. T'as dit quoi? Fou de
l'Angleterre. William Scheller.
J'aurais bien d'autres anniversaires.
Il a entendu.
Ah. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver?
Photo souvenir William Scheller. Victoire de Guillermo Espagnol de la Pampa. Et merci d'accueillir Pascal Arnaud et Agnès
Pascal.
La bande originale avec Nagui.
Bienvenue, mesdames, demoiselles, dans le monde du cinéma.
Les deux, bonjour.
Les filles.
Les filles. Voilà.
Bienvenue. Et c'est vrai que ça va bien avec l'histoire du film.
Après tout, je me fous de l'Angleterre. Et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver?
Se retrouver grâce à des photos souvenirs, on sourit pour la photo, c'est le thème du film. Comment allez-vous d'abord, Agnès?
Super.
Tu es de la boutique, Pascal?
Moi, ouais, très bien.
Ça fait trop longtemps, Pascal.
Bah alors. Bah oui.
Mais qui s'est passé?
Bah je sais pas.
En tout cas, ce film, on sourit pour la photo de François Usant. La triste nouvelle arrive dès le début. Je crois que c'est dans la bande-annonce. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais vous décidez de quitter votre mari, joué par Jacques Gamblin, à bord d'un scooter. D'ailleurs, il a le casque, donc il n'entend pas très bien. Le côté
il
n'entend
pas très bien, ouais. Il n'entend pas du tout. Il le garde après. Faut dire qu'il est chiant. Oui.
Ouais.
Bah oui.
On parle du film.
Non, du couple.
Oui,
enfin,
d'accord.
Il ne vit pas. Il classe des photos. Il est à la retraite, mais il la vit trop très immobile cette retraite.
Il range. Ça ouvre comme
tout
ça.
Classe,
le film. Il range ses souvenirs, ses photos. Mmh. Et vous dites, avant on se marrait, maintenant on se marre plus. Mmh. Avant on riait, maintenant on rit plus. Avant on baisait, maintenant on baisse plus. Ouais. Donc je te quitte.
Ouais.
Information balancée comme ça. Lui a du mal à l'encaisser. Vous êtes parent de deux enfants, une fille jouée par Agnès Surstel et un garçon joué par Pablo Poli, que nous avions vu notamment dans Patient, de Grand Corps Malade, entre autres. Et les enfants qui ne sont plus des enfants, qui sont carrément des adultes qui rentrent dans la vie, vous êtes même carrément avocate. La première image du film, Agnès, on vous voit avocate.
Ouais, au tribunal.
Subissant la présence de papa qui fait des taufs derrière.
Elle plaide. Ouais, elle est super maquée, elle a un appart, elle a un travail, elle se prend pour une vraie adulte, quoi.
Elle a sa... elle se prend
sauf que son père est là, bien là, quoi.
Toujours à la voir comme, comme une petite fille. Et le couple, enfin du moins, le père décide d'emmener toute la famille, ouais. sauf le beau-fils.
Le gendre.
D'emmener les quatre personnes en famille. Direction les vacances, pour revivre des vacances que vous avez vécues, et en fait, tout reprendre à zéro, comme en 98.
Pas reprendre. Il lui dit, enfin, il passe un deal avec sa femme en lui disant, voilà, on se quitte, mais au moins laisse-moi pouvoir passer une dernière fois des vacances. Et,
En famille.
Sauf que dans sa tête, c'est de la reconquérir.
Oui. Mais il va au même endroit, au même hôtel, il retrouve le même guide de l'époque, donc c'est absurde, c'est névrotique.
Il donne de l'argent de poche aux enfants, il fait une feuille de service pour chaque jour.
C'est ça qui est extrêmement drôle, c'est de se dire, même, quand bien même, quelles que soient les circonstances, en tout cas, les bons souvenirs que l'on peut avoir quand ils sont vécus à nouveau dans les mêmes circonstances 20 ans après, ne sont pas toujours aussi croustillants.
Non, bah jamais. Ils sont toujours déçus. Moi, je suis retournée avec mon frère sur la plage de mon enfance en Corse, et on sautait d'un grand rocher, et on s'est dit, on va ressauter du rocher. C'était.
Il faisait un mètre.
Un caillou, quoi. On l'a jamais fait, évidemment.
C'est marrant parce que la scène dont vous parlez est présente également dans le film.
Oui, c'est vrai. Elle lui refait faire exactement des choses qu'il faisait à l'époque.
Pour le pionnier.
Mais elle est contente de partir parce qu'au fond, c'est un peu bizarre de quitter quelqu'un et de partir en vacances. Parce que je pense que c'est aussi avec c'est une façon de retrouver aussi ses enfants qu'elle ne voit plus vraiment.
C'est ce qu'il lui dit, c'est comme ça qu'il la convainc de partir en vacances. Mais recoller les bouts d'un couple en disant partons en vacances pour...
C'est absurde, mais c'est ça qui est beau, c'est le cinéma, c'est qu'il faut un excès de...
il faut c'est un ça excès qui permet la comédie surtout, c'est tellement cool.
Voilà, et alors la comédie fait que justement lui se comporte aussi comme il y a 20 ans en parlant à ses enfants. Comme à des pré-ados et pas du tout comme à des adultes.
Ah ouais.
Ça marche bien pour Pablo Poli. Lui, il est resté très ado. Ouais.
Oui, lui, c'est l'enfant qui ne grandit pas. Qui
a toujours le maillot de 98 de l'équipe de France.
Un peu moulant.
Ça lui va un peu moins bien.
Il monte des
startups. Il est gaulé, Pablo Poli.
Il est super beau, super gaulé. Il est juste un peu roux, donc il a cuit en Grèce. C'était un cauchemar.
Ah bah ouais,
il avait la corvette en survie en permanence.
Ouais, ouais. Vous aviez déjà tourné avec lui, d'ailleurs.
Oui, dans Murder Party, tout à fait. Ouais. C'est un acteur que j'admire profondément.
Jacques Gamblin, Pascal Arbillot, Pablo Poli, Agnès Surstel. Il y a également dans ce film
Ludovic,
exactement. Dans ce film de François Usant, c'est drôle parce que embarquez encore une fois et faites l'exercice, dites-vous. D'abord, est-ce que beaucoup
partir
de personnes
en vacances ici... avec ses parents, déjà
divorcé.
Non. La vraie question, est-ce que beaucoup d'entre vous partent au même endroit souvent en vacances, Leïla?
Non.
Non?
Oui.
Toi, oui?
Ouais.
Genre,
maison de famille.
Non, je parle pas de ça. Je parle d'aller visiter un pays que t'as déjà vu il y a 20 ans. Tu y retournes au même endroit.
Non.
Guillermo?
Ouais, j'ai toutes les années plus ou moins, oui.
Encore une fois, je parle pas de famille. Hein. Je parle de partir visiter.
Non, mais j'ai entendu parce que vous l'avez dit juste.
C'est ça. Je suis pas sûr que tu aies
jamais entendu. Mais
vu la tête dépressive, je suis pas sûr que t'aies compris.
J'ai du côté de Biarritz, moi, Côte Basque, j'aime bien toutes les années.
Et alors, t'es déçu ou pas?
Non, parce que c'est toujours la même chose, mais c'est bien.
Mais c'est pas un souvenir d'enfance.
Les hommes sont plus routiniers.
Enfant, j'allais pas en vacances. Pour ça.
Tristan, t'as eu 10 minutes pour préparer ta réponse.
C'est vrai. Non, moi je voyage beaucoup, Naki. J'ai besoin de voir d'autres gens, quoi, d'autres choses.
Et genre jamais deux fois au même endroit.
Non, je crois pas. Je crois qu'il faut découvrir.
C'est l'interview de sa vie.
Si, en plus,
c'est fort ce qu'il vient de dire. Je
ouais, c'est fort.
On sourit pour la photo. Alors, c'est vrai que il part, ce père de famille, d'un comportement très organisé, obsessionnel, cartésien. Il veut classer, il scanne chaque photo papier puisqu'il est très photo argentique. Hein. Donc, il les classe, il fait un tableau Excel et voilà, et tout est très carré. Et puis, il part totalement. En sucette, il est beaucoup moins carré, j'ai envie de dire, quand il est
il perd
sa valise. Non, mais il est pas très organisé dans ses vacances. Moins carré.
Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il est pas organisé. Il veut retenir le temps, mais il ne sait pas organiser des vacances. En fait, il regarde le passé.
Il maîtrise le passé, mais il maîtrise pas le futur.
Donc voilà. Il n'est pas du tout.
Tout le monde va lui rentrer dedans.
Ah oui, s'en prend plein la figure.
Oui, parce qu'il est l'organisateur et que personne n'a vraiment envie d'y aller. Les enfants ne veulent pas y aller, chacun a sa vie, chacun a son budget, chacun a ses plans. Et elle a dit non, je te quitte, laisse tomber, oui. C'est pas pour partir en vacances ensemble.
Oui, oui. Mais c'est bouleversant parce qu'il fait, il donne de l'argent de poche à ses enfants.
Il donne plus que de l'argent
oui,
de poche.
Oui, il paye son fils pour venir.
C'est ça.
Ça, on adore.
Ça
on
va
adore.
Extrêmement, ça va ouais, extrêmement loin. Ouais. Et vous, il a son épouse par le cœur et par les sentiments en disant mais pour les enfants, viens
oui,
pour les enfants.
Les enfants. Et c'est vrai, pourquoi elle y va pour ça, en fait. Je me dis, moi, de mon fils, maman, le week-end, je lui dis, tu veux qu'on dîne ensemble, samedi soir. Non, mais t'inquiète, je pense à toi, mais je veux voir mes copains. Et donc...
Mais j'imagine que l'histoire des enfants, y compris dans des situations de divorce, est souvent mise en avant, c'est-à-dire, on se sépare, mais non. Il y a les enfants.
Oui, alors, il y a une prise d'otage.
Peut-être que ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y a des générations entières qui n'ont pas divorcé parce qu'il y avait les enfants.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On continue encore à se poser cette question.
Peut-être que si on était tous partis en Grèce avec nos ex et nos enfants, personne ne divorcerait, tu vois.
Ah,
c'est ça qu'il faut faire. C'est ça le message du film.
C'est ça. On sourit pour la photo. Alors non. Tout est à base de photos parce qu'il va chercher à refaire exactement les mêmes photos presque dans les mêmes positions avec les mêmes bagnoles, les mêmes tenues, les mêmes accessoires.
Le même guide de l'époque.
40 degrés.
40 degrés. Oui. Et ce film a été tourné donc réellement en Grèce oui. Mais pendant en plus le
juste après le confinement, la sortie du
juste
confinement.
Juste après le premier confinement.
D'accord. En 2020 donc.
Ouais, exactement.
Tout l'été.
Et la Grèce était encore sous. On faisait des tests PCR tous les jours, il n'y avait aucun personne sur la plage. On a eu une île pour nous tout seuls. Une île pas du tout touristique parce qu'ils ne voulaient pas faire justement une Grèce de carte postale, François Usan. Donc c'est lui qui est juste en face de Athènes, il s'appelle Égine, où vont les Athéniens en vacances. Et on est allé à la.
Enfin, il y a quand même des monuments. L'idée, quand même, de retrouver.
Oui, il y a Athènes.
C'est ça.
Mais
il voulait pas un truc cliché, genre Sifnos ou je sais pas quoi, un truc.
C'est drôle de faire un film sur la photo qui est fait pas cliché justement. Ouais, c'est drôle. Ouais. On est ravis de vous accueillir. On continuera d'en parler.
Comment je vais être drôle après ça.
On souhaite.
C'est hyper difficile pour toi d'enchaîner, Morgane. Wow.
La pression.
Tu l'as dit à voix haute.
Morgane Cadignan n'est pas du tout contente que vous soyez là. Voici. Morgane, on vous aime pas, Pascal.
Alors,
Agnès.
Bah non, Agnès Surstel, bonjour. On ne se connaît pas. Non, mais c'est bizarre. Non, mais c'est Agnès, quoi. C'est vraiment genre Obama qui retourne dans son ancien collège pour faire un bisou et checker le concierge, quoi. Parce que vraiment, en dépit des rôles, au cinéma, elle oublie pas d'où elle vient. J'ai l'impression d'être un peu la dame de Cantoche qui dit, oh bon, on est bas à faire d'elle. Hein. Avec Pascal Arbillot qui joue la gosse. Franchement, c'est pas rien, quoi. À propos, Pascal, en 93, vous quittez Sciences Po pour devenir comédienne. Et franchement, j'ai trouvé ça tellement classe et c'est un truc quitter Sciences Po pour devenir comédienne qui ne marche que très rarement dans l'autre sens. T'as pas un gars au cours Florent qui au bout de la troisième année a bossé sur un monologue de Musset se dit oh fuck it je vais faire l'ENA. Tant pis si mes parents font la gueule parce que je suis riche. Après le mec t'apprend dans un documentaire sur TF1 que avant de devenir ministre des Affaires étrangères Paul était circassien dans la troupe des chômeurs salés à Guérande. Ça n'existe pas donc pour vous ça s'est très très bien passé dans le bon sens parce qu'aujourd'hui vous êtes là pour nous parler d'On sourit pour la photo donc on l'a dit l'histoire d'un homme qui, pour sauver son couple, décide de revivre des vacances en famille. Et pourquoi les gars font toujours des trucs pas possibles pour sauver leur couple le jour où la femme annonce qu'elle se barre, pardon, mais dans le préquel du film que moi j'imagine dans ma tête, votre personnage, Pascal, je suis quasi sûre qu'elle a envoyé 1700 avertissements. Ouais. Franchement, les gars, moi j'ai déjà porté des suites avec brodé, attention, je vais me barrer au dos. Et après, les mecs sont là tout penauds avec la tête d'un chat de 18 ans qu'on emmène chez le vétérinaire, genre, oh bah c'est quoi cette valise dans l'entrée, dit, tu fais du tri, t'as vendu des trucs sur Vinted? Oui, ma libido, c'est 8 euros remise en main propre. Au revoir, Gérard. Et là, votre mari, dans le film, sa stratégie, c'est d'emmener tout le monde en Grèce, refaire exactement les mêmes vacances que celles de 98, l'année où la France était championne du monde, alors que la Belgique était éliminée au premier tour après avoir fait match nul contre la Corée du Sud, Guillermo, t'en souviens-tu? Je comprends pas ce que je dis, mais Nagui m'a dit ça ou t'es viré. Donc, non, mais franchement, la Grèce, pour se retaper, même en 2022, ça passe, quoi. Un mariage qui se noie, tu le noies dans l'ail, dans le ouzo, et on repart pour 10 ans. Moi, tu peux me tromper si tu sais où sont les passeports et que tu m'évites Ryanair. Rien n'est insurmontable. Après, ça doit être étrange d'essayer de refaire les mêmes vacances qu'il y a, allez, on va dire 20 ans, déjà. J'ai imaginé, ça ferait 2002. Déjà, si on veut bien faire les choses, dans la voiture, faut s'engueuler au sujet de Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen en se disant qu'il faut absolument faire barrage, mais que c'est la dernière fois. Oupsie. Et surtout, en 2002, il n'y avait pas encore Instagram, donc comment vous alliez prouver que vous étiez bien en vacances? Parce que moi, tant que vous mettez pas la photo d'un hublot avec écrit « Allez, ciao », je considère que vous n'êtes jamais parti. Et plus j'y pense, plus je me dis que tu m'étonnes qu'on s'aimait en 2002. On n'avait rien d'autre à foutre que d'être heureux en Grèce. La Croatie
Russie n'était pas encore à la mode, les low cost bien moins développés, on pouvait pas encore aller au Portugal pour le prix d'un pain au raisin, donc autant se rencontrer, tomber amoureux. À l'époque, il nous restait encore quelques années jusqu'aux pandémies et Tinder. Puis là, les amis, c'est le moment pour où dérouler mon idée et ma métaphore. J'ai ouvert Google et j'ai tapé Nagui 2002. Et bah parfois, le temps qui passe, ça reste une très bonne chose.
Comment je prends?
On est moins rapide sur la remontée d'idées.
En fait, de 20 ans en arrière, on repart en 98.
Au début, j'avais peur. J'étais pétrifié. De simplement imaginer que tu puisses t'en aller.
C'est pas de ma vie?
Ouais.
Mais j'ai passé tant de nuits à penser au mal que tu m'as fait. Je me suis endurci. Et j'ai appris à avancer. Alors tu reviens. De nulle part. J'ai réussi moi et tu es là.
C'est vrai que j'entends ça. Ouais.
C'est-à-dire que là tu dis on l'a perdu la Coupe du Monde.
Combien de fois tu me fais mal avec tes au revoir. Ouais. Tu pensais que j'allais craquer, que j'allais faner et tu t'es barré pour pas le voir.
Agnès, Gloria Gaynor.
Non.
Non,
exactement.
Et puis surtout, même quand
il n'y
a pas de
panique. Mais ça met de tellement bonne humeur ce titre.
Ah là là, quel lundi matin, c'est quoi?
C'est le générique. Ah bah ouais, générique du film.
Il n'y a que des bonnes
musiques.
Ouais.
Tout ce jour, tout ce temps,
c'est dur de rester calme.
Tant que je sais comment.
Mais elle est très belle cette version. Elle est très belle. Je suis pas ça pour moquer.
On ne fait pas que rire dans ce film également.
Exactement. Alors comment vous analysez, vous voyez votre personnage, Pascal Arbillot, celle de cette femme qui a tout construit avec un mari, a sa situation, elle est docteur ou
kiné.
Oui, moi aussi, je suis
kiné. On vous voit kiné.
J'ai failli dire vétérinaire.
Oui, et après je me suis dit non, ça c'est dans notre président. C'est dans président.
Et puis elle a tout pour être heureuse, mais elle balance tout.
Oui, mais elle le fait en deux secondes. Hein. Je pense qu'elle n'y a pas pensé avant. Peut-être qu'elle a fait effectivement, elle a mis des warnings partout, mais je pense que c'est tout d'un coup. C'est parce qu'elle est en mouvement sur ce scooter. Elle peut pas continuer.
C'est courageux. C'est de la survie. Ouais.
Mais sauf que elle part en vacances quand même. Elle accepte quand même de jouer le jeu parce que
parce qu'elle les regarde vivre, parce qu'elle les aime, parce qu'elle aime ses enfants. Peut-être qu'elle a pas le courage aussi d'être seule. C'est facile de partir, puis après faut le faire vraiment concrètement. Et pour moi, c'est une femme. Libre, mais sans artifice et sans violence ou sans hystérie. Elle est assez seule, je trouve. Mais moi, ce que j'adore dans ce personnage, c'est qu'on ne la comprend pas très bien. Elle n'est pas expliquée. Mais elle regarde. Moi, j'ai regardé même les acteurs. J'ai regardé en Grèce. On vivait, nous, à l'époque, un monde absurde. Toujours absurde, mais on regardait aussi la Grèce. On regardait le monde à l'arrêt. Et c'était un peu pléonasmique.
Alors, autant faire un bond en arrière pour une épouse, reconstituer, reconstruire un couple, et vous êtes dans le secret de cette reconstruction de couple, enfin, sauf qu'elle ne sait pas que lui veut la reconquérir, mais les enfants ne savent pas, en tout cas, qu'il y a une ambiance de divorce. Voilà. Et les enfants, le piège là-dedans, c'est que Agnès et Pablo, vous retombez vraiment en enfance, c'est-à-dire vous faites un tout petit peu avoir par l'histoire. Il y a des soirées, on va en boîte, et on en oublie la robe d'avocate, on en oublie la rigueur de la
Non,
mais c'est ce qui est intéressant avec ton personnage, Agnès, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui évolue énormément.
Ouais, ça, c'était génial pour moi.
Du début à la fin du
qui
film.
Qui évolue ou qui régresse?
Justement, c'est une évolution.
Non, régresse, c'était le genou.
Ah oui, régresse.
Wow.
On n'était pas prêts.
En fait, vous ne comprenez pas.
Non.
Tant mieux.
Elle va enfin se remettre un peu en question parce que mon personnage, Karine, qu'on a appelé Karim pendant tout le tournage, c'est pas simple.
Karim?
Ouais, c'est Pablo qui avait trouvé cette petite vanne tous les matins.
Ton enfant, donc.
Qui est très. Ouais, voilà. Pablo, non, pas mon enfant. Pablo, mon collègue de travail, Pablo Poli, qui a vraiment 30 ans.
Oh, l'outing.
Extraordinaire. Il parlait bas, en fait. Elle est pas Et ai-je vraiment un enfant? Et Karine, elle ressemble à son père, en fait. Elle est dans le contrôle, elle est très... Et en plus, elle s'est mise depuis des années, sans avoir testé aucune autre histoire d'amour, avec un mec qui ressemble vachement à son père.
Ouais. Donc, je ne sais pas si vous savez.
Mais moi, j'aime bien, je le juge pas du tout, je le trouve génial.
Il commence toutes ses phrases par...
Ouais. Il est un peu lourd, quoi.
Et mais, finalement,
mais il sait tout.
Il sait tout. Et il est un peu amoureux de son beau-père, quoi. Il y a quand même un petit souci.
Il est pas,
Morgane?
Non, mais il est pas sauvage, mais il essaye, il est hyper touchant, quoi.
Il est, moi, et je pense vraiment que Karine, elle est hyper amoureuse de lui. Elle domine, mais elle est, elle le trouve génial. Elle se moque pas du tout de lui comme son frère.
Le reste de la famille, oui.
Oui. Mais ça l'énerve. Et elle, elle est en reconquête. Elle, elle va pour un but très précis en Grèce et pour intégrer son mec dans, enfin dans la famille. Et en fait, le truc, c'est que quand tu te mets dans une situation comme ça, enfin, elle va se prendre tout dans la figure.
En fait,
quoi.
C'est ça. Chacun des quatre membres de la famille, chacun a son motif, a son moteur. Le père de famille veut recoller les morceaux de son couple. La maman veut revivre une semaine enfin avec les enfants parce qu'ils deviennent trop grands et qu'ils ne partent plus en vacances avec les parents. Le garçon, lui, tout ce qu'il veut, c'est de la thune.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Il est au soleil, dragué.
À 1500 euros, il veut être au soleil, dragué, boire des coups, aller en boîte. Voilà, c'est ça. Et quant à elle, votre personnage, Agnès, c'est faire rentrer son fiancé dans la famille pour qu'il soit enfin accepté. Ouais. Et chacun a un moteur différent, mais tous les moteurs ne vont pas forcément dans le même sens.
Ben, encore une fois, c'est ça qui crée les situations de comédie, c'est que ça part vraiment en vrille, il y a trop de... Tu les enfermes dans un truc que tu secoues et ça va trop loin. Et c'est difficile quand t'es adulte de revenir dans une situation d'enfant. Enfin, je sais pas, si vous passez Noël en famille, c'est toujours pareil. Tu te remets dans une pièce où il y a une seule pièce où il y a du wifi. Si tu mets un grille-pain en plus, tout explose.
Chacun se remet dans son rôle.
Ta mère te dit, tu peux ouvrir tes volets, ton collant est troué, tu peux t'attacher les cheveux. Enfin, ça c'est ma mère, pardon, mais c'est vrai que tu te remets dans une position d'enfant, c'est compliqué. C'est là qu'arrive la comédie, je trouve.
Oui, mais il y a aussi les enfants qui se font prendre au piège des diaporamas, des musiques, du côté un peu romantique. Et d'un coup, les enfants voient les parents, en tout cas voient l'image des parents amoureux. Et ça pouvait leur manquer un tout petit peu.
Oui, mais c'est hyper immature. C'est-à-dire, normalement, quand t'as 30 ans, si tes parents, tu vois que ça va plus et qu'ils divorcent...
C'est même oedipien pour Pablo.
Oui,
Paul,
mais pour les deux, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois que tes parents, ça va pas et qu'ils divorcent, t'en fais pas... Enfin, c'est fou ce mensonge permanent dans le film... de pas dire les choses, c'est fou, quoi. Enfin, Jacques, il va jusqu'à mentir vraiment à son fils sur un truc très...
Mais raison. Parce que c'est pas anodin.
Non, c'est une ambiguïté, c'est un quiproquo. Oui, ouais.
Quiproquo, mais...
C'est pas anodin de voir ses parents, qui a été quand même, je sais pas, le symbole pour toi de l'amour, sans doute ton référentiel premier, qui a permis de te construire ensuite et d'avoir tes compagnons, te dire que tes parents un jour se séparent, je sais pas s'il y a un âge où c'est plus simple que d'autres, en fait.
Je sais pas.
Ouais.
Est-ce que vous mettez le film dans une catégorie? C'était une bonne question, en fait.
C'est une question en réflexion, là.
Qu'est-ce que tu en penses, Agnès?
J'ai pas la solution.
Est-ce que ça rentre dans... C'est une comédie romantique, quand même, avec une histoire d'amour, ou plusieurs histoires d'amour, d'ailleurs, qui se croisent?
Le réalisateur, il dit que ça ressemble à Little Miss Sunshine. Tu vois ce truc, ce film, quand on était petit, où t'as et de l'humour, et de la mélancolie, et de la tendresse, et de l'amour.
Et du soleil, et de la graisse, et un van.
Et puis une écriture, j'adore ce van. Une écriture très, très précise, très ciselée, très efficace. Et il voulait d'abord faire une comédie à l'intérieur, glisser des thématiques plus...
Non, et puis il y a des scénettes, alors je ne sais pas si ça sera bien ou mal pris, et je suis désolé s'il le prend mal par François Usant, mais il y a vraiment, il y a comme des sketchs par moment, je pense notamment, alors je ne veux pas divulgâcher la situation, mais vous retournez dans une boîte, le couple retourne dans une boîte de nuit, pensant que c'est une boîte de nuit,
qui n'est plus une vraie boîte de nuit, les gens sont un peu plus...
Qui avait une boîte échangiste.
C'est dans la bande-annonce.
La boîte échangiste, c'est dans la boîte d'annonce, oui. Par contre, le payoff, ce qui se passe après, dans la vie civile, ne l'est pas. Mais il y a des sketchs, mais des situations drôles dans ce film qui s'appelle, on sourit pour la photo, et c'est au cinéma.
Mercredi.
Agnès.
L'autre, c'est la semaine prochaine. Mais je reviens demain si tu veux. Hein.
Pour couper.
Je viens tous les jours si tu veux.
Et puis le film a eu le prix spécial du jury au festival d'Alpes d'Huez, c'est ça.
Exactement. Jacques Gamblin, Pablo Paoli, Agnès Hurcel, Pascal Arbillot. Dans ce film, on sourit pour la photo. Et voici Guillaume Roguier.
Ça va, les amigos?
Oui, très bien, tellement.
Et grande décision, je crois que je vais prendre un chien.
Non.
À la base, je voulais un animal plus original, genre un cétacé. Mais il faut un permis. En plus, un cétacé, typique, c'est mignon quand c'est bébé. Après, il est malheureux dans ton évier. C'est vrai. T'arrives à la maison, regarde, j'ai ramené ton plancton, 1700 kilos comme t'avais demandé. Et puis il soupire avec son évent. C'est le temps de prendre un chat. Alors en vrai, je voulais absolument un cochon nain en hommage au patron. Et c'est trop affectueux. C'est trop affectueux. C'est hyper affectueux un cochon nain. C'est gentil. Tu rentres tard, t'as pas eu le temps de faire les courses, tu te fais, allez, vas-y, prends une tranche. C'est un bon compagnon. Ceci dit, moi, je suis végé, il n'y a pas la plus-value. Mais c'est doux. C'est doux, c'est malin, cochon. Sauf que pour être épanoui, il faut qu'il fouille la terre pendant 4 ou 5 heures par jour. Et moi, j'habite en Belgique, tu vois, la justice, elle est déjà débordée, quoi. Si mon cochon fouille la terre 4 heures par jour, ça va pas désengorger les tribunaux. C'est colqué ce matin, midi, soir. Et du coup, je crois que je vais prendre un chien. Et c'est un vrai défi parce que j'ai jamais eu d'animal de compagnie de toute ma vie. À part en ce moment, je garde le morpion de Daniel Morin le temps de ses vacances au Club Med. Mais après 10 jours, il n'y a toujours pas d'affect. Je lui dis donne la patte, et il écoute d'une oreille. Tu sens qu'il a gardé un côté sauvage, ce morpion. Et c'est normal, Daniel, vous connaissez, c'est comme les paresseux, il y a plus de 80 espèces qui vivent sur lui. Dans son caleçon, il a tourné microcosmos, c'est vrai. Du coup, moi, avec mon pubis rasé, ce morpion, c'est un indien dans la ville, hein. Tu vois, il a perdu, quoi. Mais du coup, j'avoue que j'hésite encore un peu pour le chien. Parce que c'est une vraie responsabilité. Déjà, il faut lui trouver un chouette nom qui corresponde vraiment à ce qu'il est profondément. Moi, j'avais pensé à Luc, ou alors peut-être Denis. Mais je veux pas qu'il ait un nom de chien traditionnel du genre Flipper ou Garfield. Je veux qu'ils se disent, ok, je m'appelle Luc, et ben je dois pouvoir lire une comptabilité. C'est, en plus, je sais qu'un chien, ça va me coûter une blinde, déjà pour l'apparence, parce que dès que je l'emmène chez le vétérinaire esthétique, parce que là, je vais adopter un dog allemand, mais je voudrais que mon chien soit beaucoup plus petit et qu'il ait des poils bouclés. Donc, on va aller en Turquie pour faire des implants. Luc, il aura un look à lui, tu vois, beaucoup de cuir, des pantalons serrants, une Apple Watch. Vraiment, ça va. Je veux que quand on ira au parc à chiens, les autres chiens, ils se disent pas, putain, la honte, Luc, il a que du Uniqlo. Ça se voit, son maître, il est dans le service public. Moi, je veux pas ça. Je veux qu'il ait un vrai look. De toute façon, vous le verrez bien assez tôt. J'ai lu que 4 Français sur 10 aimeraient emmener leur chien sur leur lieu de travail parce que ça réduit le stress au boulot. Putain, moi direct, je viens avec Luc à l'émission, tu vois. Alors la Belgique, on a toujours pas les toits sur le maillot. Allez, attaque Luc, la jugulaire, le premier qui triche au blind test, il perd une phalange. Je le dis parce qu'il ressemblera à un caniche après notre passage à Istanbul, mais il aura encore ses réflexes avant quand c'était un dog. C'est vrai, en réalité, j'avais réservé un chiot dans une portée, mais pour de vrai, j'ai appris hier qu'il était croisé avec un American staff. Je promets que c'est vrai. Et ça, je suis pas prêt, quoi. J'avoue que Luc, j'ai pas envie qu'il mange un autre chien ou un enfant, tu vois, parce que c'est des frais, quoi. Et moi, je voudrais quand même que mon chien il soit plus très inoffensif, quoi. Que même s'il y a des cambrioleurs qui débarquent, il leur fasse aller. Je peux vous offrir une consommation, mais un staff, putain, un American staff, il me regarde mal. Je m'enferme dans la buanderie, quoi. Tu vois, s'il grogne, je déménage dans un pays chaud, c'est sûr. Je vois trop l'histoire arriver. Un jour, je vais rentrer bourré, je vais trébucher sur lui dans le noir. 11 jours plus tard, les pompiers vont retrouver mon fémur, quoi, avec lui qui fait c'est un énorme malentendu. En vrai, ça peut être adorable ce genre de chien, mais ça doit s'éduquer avec passion et patience, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas envie d'un chien qui va plus souvent que moi chez le psy, quoi. Franchement, moi je veux un chien tout chill. Au départ, je voulais un chiot, mais c'est que des déceptions, un chiot. Genre, on t'arrête dans la rue, tu crois que c'est pour tes chroniques que tu fais sur le web. En fait, c'est pour ton bébé husky. Hein? Oh, lui, c'est mignon. Oui, mais est-ce qu'il trouve des vannes originales sur Daniel Morin depuis 6 ans? Bon, ben voilà. Du coup, moi je crois que je vais prendre un vieux clébard en bout de course, tu vois, 14-15 ans, revenu de tout, quoi. Vraiment, genre, tu lui dis, on va se promener, et tu fais, oula, non, malheureux. Tu sais, un chien qui fait des siestes 22 heures par jour, le reste du temps, il est resté avec toi et regarde RMC Découverte. Ça, c'est vraiment, ça, c'est mon objectif, tu vois, un animal que j'aime et qui, même quand je fais des chroniques ratées ou quand je remplis pas mes salles, et de toute façon, au pire du pire, je fais un gosse. Allez, bonne émission.
Oh, merci. Bravo. Tu l'appelleras Denis, ton gosse?
Peut-être. Un chiot.
Comment revivre des vacances vécues 20 ans ou 22 ans avant, 98 en tout cas. Justement, la vanne est faite sur la Coupe du Monde de football dans le film. Non seulement Pablo dit 2 étoiles, mais il rajoute bientôt 3. Ça peut dater le film, ça. Hein. Vous savez que dans 6 mois, ça passera déjà pour un film avec une prémonitoire. Le pur méo.
Si.
Ah oui, il y a un time's up en famille qui
est incroyable.
Ça, on adore.
Très moment écrit, d'impro, moment d'impro génial pour nous.
Ouais. Dites-moi, impro.
En fait, on a tourné jusqu'à 4h du mat toute la scène, et une fois que c'était terminé,
vous avez fait un vrai time's up.
Le réalisateur nous avait mis des petits papiers, on a fait un vrai time's up, et il y avait peu de moments d'impro, donc là, nous, on était trop contents, et on était à fond, et c'est ce qui est monté dans le clip, dans l'extrait, le moment juste après.
Où le moment rapide, où on voit tous les mimes dans tous les sens.
Mais c'est génial.
Non, ce qui est bien, c'est qu'on voit quand même que c'est une vraie famille. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont, par moment, ils se retrouvent ensemble, alors évidemment, ça râle sur l'état des chambres, le vieil hôtel, la voiture de loc pourri, le resto où on n'a pas envie d'aller. Puis d'un coup, il y a quand même quelque chose qui est plus fort que tout, c'est l'amour d'une famille, des souvenirs, des madeleines qui reviennent.
La joie de l'enfance qui revient toujours. On reste toujours l'enfant de ses parents. C'est ce que voulait absolument montrer François. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film.
Il n'y a pas beaucoup d'internet, d'Instagram, enfin de temps. Il y a des vannes faites autour de, d'Insta, mais sinon même l'appareil, l'appareil photo est un appareil photo argentique, celui avec lequel Gamblin refait des photos pendant tout le long du film.
C'est vrai, personne n'est sur les réseaux dans ce film.
Exactement.
Bah, si, un petit peu. Pablo, pour montrer qu'il n'est pas Ibiza, mais qu'il est quand même dans un endroit hyper cool et qu'il peut draguer des meufs, quoi. C'est quand même un peu le.
Oui, à propos de drague, justement, là, il y a une photo qui va poser un problème sur un portable à un moment dans le film.
Des problèmes de communication.
Pour revenir en. En 2022, on va parler de la musique et pas que de la musique du film où c'est Ben Mazuet encore une fois qui l'interprète. On va parler de la musique que vous écoutiez avant de préciser qu'on recevra tout à l'heure Cécilia Como qui est psychanalyste spécialiste du couple justement.
Super.
Comment faire pour se
bloquer ? Plein de questions.
Mais ouais. En 2011, vous écoutiez Pascal Arbillot. C'est la Sioux, c'est pas son plus gros succès.
Ah ben moi c'est celui que j'écoutais en boucle absolument. J'ai vu qu'elle avait refait d'ailleurs un album récemment.
Absolument,
elle a c'est incroyable, sa voix a pas changé.
Bills et c'était Ragamuffin qui était.
Bah oui, Ragamuffin, ouais mais celui-là je l'adore.
Et elle évoque quoi cette chanson pour vous, cette musique?
Rien de précis, mais je l'ai écouté vraiment en boucle.
En 2011, Leïla.
Et on vous retrouve au théâtre Pascal dans L'amour, la mort, les fringues. Aussi aux côtés de François Berléand dans Cadrille, de Sacha Guitry.
Ouais, enfin, j'ai découvert.
Ouais,
la vache, il y a longtemps.
Quels souvenirs vous gardez de cette période-là sur scène, vous avez continué, sur scène de toute façon, mais là, cette période en particulier.
Bah, c'est le plaisir, la joie du théâtre, de tout chaque jour
d'y retourner,
de partir en tournée longtemps.
Attendez, c'est paradoxal quand vous dites la joie du théâtre. Chaque jour d'y retourner, on a l'impression que les deux vont pas forcément ensemble.
Oui, alors que là si. Là parfois ça va pas ensemble, mais là si. Et surtout la possibilité de tout le temps. Enfin moi je crois que j'ai jamais autant travaillé le même personnage et travaillé appris chaque jour. Ouais. Et je crois que à la dernière j'ai compris un truc du personnage. Il m'a fallu un an et demi et j'aurais pu continuer. J'imagine que pour un metteur en scène c'est François c'est quand
chaque soir vous essayez quelque chose de différent, c'est ça?
Mais le rôle était dément. Le rôle de Kadri, l'écriture de Guitry, qui est soi-disant misogyne, et je trouve qu'il écrit des rôles de femmes fortes, folles, libres.
T'étais incroyable dedans.
C'est gentil, merci.
Et dans L'amour, la mort, les fringues, vous étiez avec Miu Miu, Sylvie Testu, Ariane Ascaride, Géraldine Nakache, donc on était dans une belle bande de filles aussi. Ouais, c'est le plaisir d'y retourner tous les soirs et de retrouver la bande de copines, en fait.
Ouais, exactement. Et puis de se regarder, de se soutenir les unes les autres, et oui, ça me manque le théâtre, je pense que j'ai envie d'y revenir un peu.
Ça vous voit si bien.
En 2011, année sur celle, vous écoutiez...
La nuit ne finira donc pas, la lune est bleue, il y a des jardins...
Pétula Clark.
Des amoureux qui sont...
D'où vient cette musique dans votre playlist?
Je sais même pas d'où ça sort, sans doute genre d'un... Tu sais, il y avait tous ces coffrets Nova, il y avait tous les morceaux depuis 10 ans. Et je mangeais ça tout mon... Là, j'ai des images hyper précises dans mon premier studio. J'écoutais ça à fond. C'était le début de ma vie d'adulte, quoi.
Vous êtes étudiante en lettres. Ouais. Enfin, tu es étudiante en lettres à cette époque. Agnès, on va pas non plus faire semblant pour se connaître.
Oui, c'est vrai qu'on peut se tutoyer.
Licence de lettres à la Sorbonne. Et en parallèle aussi déjà des cours de théâtre. Des ateliers.
Ouais, j'ai essayé, quoi. Ouais.
Alors, par quel biais?
Ben, j'étais serveuse. C'est comme ça que j'ai vraiment rencontré des gens. Et t'envoies, tu fais des photos.
Comment
et
ça, on rencontre des gens en étant
serveuse? Tu rencontres des gens, t'es sympa avec des gens, il y a du pourboire, il y a machin. Tu dis, ah, je peux passer une audition. Je sais pas, t'essayes par tous les moyens. T'envoies des CV aux écoles de cinéma, à la Fémis. Je me souviens, j'allais déposer chaque année des photos et mon CV pour faire des courts-métrages.
C'est-à-dire que c'est le cas de beaucoup de jeunes comédiennes d'avoir des, entre guillemets, des petits jobs, que ce soit serveuse ou vendeuse dans des fringues.
J'ai été vendeuse, baby-sitter, serveuse. C'est là que j'ai appris le métier de comédienne, d'ailleurs, je pense.
En observant les autres.
En observant, c'est le meilleur, c'est le théâtre social le plus fou. Je pense que quand t'es serveuse, tu vois la nature, la vraie nature des gens. Et faut être hyper calé. Déjà, j'étais en mini-jupe parce que j'étais dans un endroit un peu, j'étais à l'hôtel Amour, fallait être en mini-jupe machin. Faut jamais être dans la séduction, sinon les femmes sont furieuses et les mecs te draguent. Donc faut toujours être à un endroit hyper serviable et hyper agile et hyper souriant pour être sûr
que ça se passe bien et d'avoir du pourboire, mais jamais plus. Enfin, non, c'est. Et est-ce que c'est ce que tu projettes, que les gens. Enfin, c'est.
Et est-ce que c'est. Je veux juste dire à Guillermo que l'hôtel amour avec des serveuses en mini-jupe, c'est pas du tout ce que tu crois.
C'est fini. C'est fini. Maintenant, il y a des hommes, il y a plus de jupe.
Et est-ce que c'est pas dérangeant? L'hôtel amour existe encore. Est-ce que c'est pas dérangeant justement d'arriver dans un job et qu'on vous dise, bah, en fait,
mais je me suis fait virer. Je me suis fait virer parce que je mettais pas de maquillage et que j'avais. Ouais, et que je mettais un pantalon noir sous ma jupe. Je mettais un pantalon noir sous ma jupe. J'ai fini par me faire virer. Un 14 février.
C'est bien.
Ouais. 14 février, jour de la Saint-Valentin.
Pour l'hôtel amour.
Se faire virer.
Mais je les adore, mais c'est vrai que c'était. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un resto qui t'oblige à être en mini-jupe. Mais bon, c'était super
école. Et heureusement. Ouais. Et heureusement, parce que c'est assez violent comme, comme obligation. Ouais, si,
moi, je pense que ça existe encore, à part de regarder avec les Lila.
On ne serait pas complètement étonné que ça
existe. Mais je ne suis pas prise dans cet endroit-là. Il fallait être hyper belle, hyper grande, les costes et tout.
Ouais. Ouais.
Où il y avait beaucoup disaient « je suis actrice ».
Ouais, bah bien sûr.
Beaucoup. En 2015, vous écoutiez Pascal Arbillot. Christine de Queen. Vous écoutez la musique dans quelles circonstances? C'est pour vous mettre en condition ou elle vous accompagne tout le temps?
Ah ouais, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'écoute tout le temps, mais c'est pour ça que je peux pas vous dire quand, quelle est la circonstance. À une époque, je prenais.
Mais alors, dans quel état ça vous met cette chanson, par exemple, de Christine?
Moi, c'était un choc. Et puis sa réinterprétation aussi de la chanson de Christophe. Enfin, ça a été un choc. C'était une découverte. J'avais jamais vu une chanteuse en costard, dansant comme ça, avec un univers incroyable, absolu, immédiatement.
C'est vrai qu'il y a le visuel qui vient se rajouter en plus.
C'était
dingue. Il y a une interprétation.
C'était dingue. Ouais. Mais comme j'ai eu un choc comme ce matin, là, Kendrick Lamar, là, le nouveau clip de Kendrick Lamar, c'est dingue ce qu'il fait. Et c'est dingue, il faut le voir, c'est extraordinaire.
On est en 2015, Pascal, on vous retrouve avec Michel Faux sur scène.
Ah ouais.
Dans un amour qui ne finit pas.
C'est le titre.
Un texte bien. D'André Roussin. Ouais, c'est vrai, ça serait bien. C'était au théâtre Antoine.
Ouais.
Avec plein de partenaires aussi sur scène.
Ouais, bah Léa Drucker.
Et puis Pierre Cassignard.
Ah non, alors là, j'avais pas pensé. Je vais pas pouvoir en parler. Pardon. J'avais oublié.
Eh bien, moi, je vais juste dire que Pierre Cassignard était sur scène votre compagnon dans cette pièce, que vous étiez fabuleux tous les deux.
Ouais.
Qu'on en a dit un mot quand Léa Drucker est venue il n'y a pas très très longtemps dans l'émission et que Pierre Cassignard n'est plus là.
Non.
Enfin, il est la preuve. Il est toujours quand on en parle, quand on l'évoque.
C'est un amour qui ne finit pas.
Ah bah oui. Il était extraordinaire. Extraordinaire de gentillesse, de folie, d'engagement. Il m'a sauvée. J'ai eu le premier et seul unique trou horrible. Première à Versailles.
Comment tout se sauve d'un trou de mémoire?
C'est un cauchemar. Bah, je vous jure que Pierre, moi je l'ai vu. Je commence à dire une phrase et d'un coup, je sais plus. Vous savez, refus de.
Okay.
D'un coup, je me suis arrêtée. Je me dis,
on saute pas l'obstacle.
Je vais pas sauter l'obstacle, je vais attendre. Et là, Pierre était là. Et donc, il me relance une fois, deux fois.
Oui, surtout, il faut expliquer que les autres acteurs ont besoin de votre texte pour.
C'est une catastrophe.
Pour repartir, ouais.
Et là, il a commencé à gigoter comme un chien. Alors Et d'un coup, il dit, je reviens. Il est parti, il est allé chercher le texte. Il est revenu, il me l'a soufflé. Je crois que ça a duré 3 minutes. C'était monstrueux.
C'est génial.
Et il m'a relancé comme ça. Il a été extraordinaire. Il m'a sauvé. Il m'a vraiment sauvé.
Agnès, vous écoutiez à ce moment-là.
Une autre ambiance.
Comme par hasard, Touch Me. Ok, allons-y.
Et pour parler de quoi? Avec ma bouche.
Allez. Oui.
Le spectacle d'Agnès sur Stel, votre seul en scène, ton seul en scène au Sentier des Halles, que tu avais repris ensuite au Rond-Point en 2018. J'avais lu qu'en fait, tu avais préféré dire avec ma bouche. Enfin, pour
le spectacle.
Spectacle
s'appelait Avec ma bite et mon couteau.
Voilà.
Et quand on a fait toute la campagne dans le métro, on a dû changer de titre parce qu'on peut pas mettre le mot bite sur des colonnes Maurice et dans les affiches métro.
C'est dommage.
Et après, on l'a appelé.
C'était un bon titre, j'avoue.
Après, on a hésité avec mon cul sur la commode et puis non. Et puis c'était avec ma bouche.
Et tes parents dans ces circonstances?
Mes parents, les gens venaient. Mais alors, faut savoir que j'ai démarré dans des caves rugales à côté de chez eux. Et ils venaient tous les mercredis.
L'interdit de la campagne pub donne un super titre, ambigu, à double sens, et peut-être, meilleur que.
Avec ma bouche?
Bah oui, je trouve.
Après, premier stand-up, tu dis juste c'est le spectacle d'Agnès sur scène. En vrai, personne connaît les noms des spectacles d'humour, tu vois. Mais c'était trop drôle.
Oui, mais 15 ans après, tu vois, on en parle, quoi.
Ouais, c'est vrai. Surtout que j'avais mis ma photo de profil Facebook en affiche au début.
Et
il y a une avant-première demain, ils viennent.
Ah ouais, mes parents.
Merci, ouais.
Ah ouais, ouais, ils viennent partout, tout le temps.
Ils venaient donc tous les mercredis.
Ils venaient tous les mercredis et les gens à la sortie, le soir de la première, dans cette cave de tabouret un peu lugubre du Sonar, c'est génial. Un mec passe devant mon père et dit toutes mes condoléances.
Mais non.
Mes parents étaient hyper fiers. Mon père disait tous les mercredis, c'est politique ce que fait ma fille. Ils étaient à fond.
Voilà, fier comme ouais. Gamblin dans le, dans le film, fier de sa fille quand il va au tribunal assister à sa plaidoirie. Cécilia Como nous a rejoint, bonjour, merci d'être à ce micro. Vous êtes psychanalyste spécialiste du couple et sexologue clinicienne. Vous avez publié « Le couple parfait n'existe pas » aux éditions Flammarion, éloge de l'imperfection amoureuse. Parce que justement, on cherche la perfection en amour et on a tort.
On la cherche en tous les cas inconsciemment, parce que consciemment, c'est une réponse qui est très intellectualisée. Je l'ai vu avec le titre du livre, c'est-à-dire beaucoup de gens m'ont dit non, pas du tout, parce qu'ils ont quand même conscience que ça sonne assez utopique et presque un peu idiot. Et dans le même temps, ce qui est assez drôle, c'est que sur les mots-clés les plus recherchés depuis plusieurs années sur Google, on retrouve toujours le mot en tête, âme sœur. Et c'est drôle parce que
j'ai jamais tapé âme sœur.
C'est un des mots qui est le plus. Ouais,
c'est inquiétant. Ou quoi
je veux pas savoir
non,
ce que t'as tapé.
Il y a aussi comment savoir qu'on est amoureux. Il y a effectivement.
Oui, mais ça, pardon, ce sont des ados ou voir des
non, pré-ados du tout.
Qui écrivent ça. Non,
on est sur Google Trends, c'est-à-dire le résultat des recherches mondiales. D'accord. Quels sont les mots-clés qui sont finalement les plus tapés? Et ce qui est intéressant surtout, c'est que âme sœur, bon, bien sûr, ça renvoie à une complétude, mais ça renvoie surtout à une histoire qui serait évidente, qui serait limpide, qui serait sans aspérité.
Oui, mais l'âme sœur, on peut très bien la ressentir avec un membre de sa famille ou avec son frère, ça, justement, ou sa sœur. Être très complémentaire en âme ne veut pas forcément dire l'être en amour ou rajouter la sexualité, rajouter l'entente. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le film, c'est-à-dire le couple sur le fait de ne plus s'amuser, de ne plus délirer, de ne plus faire l'amour, se sépare. C'est ça le point de départ de la séparation du couple. Est-ce que c'est souvent le sexe qui est le problème dans les couples qui se séparent?
Non, parce que là on voit bien dans le film que c'est en plus d'avoir perdu leur complicité, leur légèreté, tout ce qui faisait un peu dans le film finalement ils cherchent à revivre des choses.
Et, mais dans ce que vous voyez chez vos patients, la sexualité n'est pas le premier problème.
C'est le sommet de l'iceberg. C'est-à-dire que effectivement au départ c'est ce qui est le plus facilement visible. C'est de se rendre compte qu'on fait plus l'amour. C'est plus compliqué de se rendre compte qu'on s'amuse plus, qu'on a perdu en légèreté, qu'on a perdu en complicité, qu'on se dit plus les mêmes choses. C'est plus
le
subtil. Le détonateur, ouais. C'est qu'il y en a un des deux qui, à un moment donné, de manière assez concrète, peut compter quasiment le nombre de fois et se rendre compte qu'il y a effectivement très peu de fois. Donc là, on
très
vient
peu de fois où on fait l'amour.
Exactement. D'accord. Et c'est ça la problématique du départ pour un des deux. Mais très souvent, derrière ça, il y en a bien d'autres, en fait.
Et quand ça commence à aller mal ou quand quelqu'un dit dans un couple « je te quitte, je demande le divorce », est-ce que c'est vraiment la fin du couple ou est-ce qu'il y a quand même une possibilité de donner une seconde chance?
Alors moi, je dirais plutôt second souffle. Parce que seconde chance, ça voudrait dire que la première fois, c'était déjà une histoire de chance, et je suis pas sûre. Mais second souffle, non, bah oui, beaucoup de gens, de toute façon, l'ont fait, même sans s'en rendre compte. Non, c'est pas fini à ce moment-là. Après, ça dépend aussi des individus. Il y a vraiment une histoire de timing. Il y a des gens pour qui ça arrive trop tard, en fait, cette prise de conscience. Et il y en a un des deux qui est déjà à plat, qui est complètement essoufflé. Mais on voit bien déjà... bon, alors moi, j'ai un biais qui est sûr, c'est que les gens qui viennent chez moi passent d'abord par une phase réparation avant une phase séparation. Mais plus objectivement, les consultations de couple ont explosé. Donc ça veut dire quand même que les gens réfléchissent d'abord à voir comment ils pourraient se renouveler avant de songer à se séparer.
Sans dire que ça arrive forcément, sans dire que ça arrive forcément dans le film, on verra, je veux pas tout dévoiler dans le film, mais la suspicion, en tout cas, qu'il y ait tromperie, qu'il y ait une maîtresse ou un amant dans le couple, est-ce que certains vivent cette situation, cet équilibre et gardent le couple justement parce qu'ils ont une maîtresse, parce que elle a un amant de l'autre côté, ou au contraire, c'est le déclic pour la fin du couple de
les deux. D'abord, c'est rarement le déclic d'une séparation. En général, pas la première fois. Mais effectivement, il y a des gens qui s'arrangent pour équilibrer en fait leur couple avec une vie sexuelle à l'extérieur et une vie affective à l'intérieur. Ça, c'est vrai.
C'est ce qui est le plus fréquent.
C'est un peu ce qu'il y a de plus fréquent. Ils le vivent pas tellement comme un équilibre. Ils ont pas cette conscience de se dire, il y a des gens qui l'ont, mais c'est plutôt rare. J'ai équilibré ma vie de cette façon-là. Ils ont plutôt finalement une espèce de bulle à côté dans laquelle ils vivent des choses secrètes et cachées. Ils conscientisent pas forcément que ça participe à l'équilibre. Avec le confinement, beaucoup l'ont conscientisé
pour le coup.
De se dire ça, ça manque, et en fait de se rendre compte que ça permettait d'équilibrer leur couple.
Et finalement, l'imperfection peut faire le piment de l'histoire et la différence par rapport sortir de la routine.
Mais c'est tout l'objet du film que j'ai adoré. Mmh. Je l'ai trouvé hyper juste, hyper drôle. Et en fait, ce film, il dit sans dire, parce qu'il n'y a pas de phrase qui... On n'est pas en thérapie, donc il n'y a pas de phrase qui signifie ça, mais il explique bien, finalement, ce qu'il faut... Vers quel chemin il faut aller, vivre et non pas revivre, et s'autoriser, évidemment, les aspérités et tout ce qui va être inattendu.
Chez Flammarion, le couple parfait n'existe pas, éloge de l'imperfection amoureuse. Merci, Cécilia Cohen.
Merci à vous.
Tristan, mais c'est là, c'est maintenant, c'est ton moment.
Deux semaines, j'ai attendu avant d'avoir de vos nouvelles. Deux semaines de supplice, d'attente, à recevoir des messages quotidiens de Leïla et Nagui. Tristan, tu nous manques. L'âme de cette émission se meurt en ton absence. Reviens, on ne peut plus faire tomber Tanguy Pastureau. On va finir par se douter de quelque chose, mais on va se débrouiller. Résultat des courses, aujourd'hui je remplacerai l'autre bab tout fragile de cette émission. Daniel Morin, pour mon tout premier héros du jour. Il est blond, il est grand, il porte des lunettes. Non, ce n'est pas Paul Mirabel. Son nom à lui, c'est Vitaly Milonov.
Oula.
C'est à vos yeux écarquillés que je devine que personne ici ne sait de qui il s'agit. Il était donc temps que je revienne pour relever un peu le niveau. Vitaly Milonov est un député russe d'extrême droite, connu notamment pour ses positions contre l'avortement, ses propos antisémites et LGBTophobe. Une personne dont le deuxième prénom est donc certainement Bienveillance, puisqu'il a d'ailleurs été à l'origine en 2013 de la loi punissant d'amende tout acte de propagande homosexuelle devant des mineurs. Pour se détendre, il a aussi appelé à la stérilisation des personnes homosexuelles, et il est l'auteur de cette phrase qu'on devrait retrouver dans tout bon bouquin de développement personnel: les homosexuels sont des sodomites violeurs d'enfants. Je n'y avais jamais pensé, mais quelle bonne idée pour un dimanche après-midi post-déjeuner de famille. Décidément, je manque à tous mes devoirs. Vitaly Milonov, un homme donc délicieux, avec lequel toute personne dotée d'un minimum de bon sens rêverait d'avoir une conversation chaleureuse sur la définition du mot tolérance, autour d'une bonne tasse de thé mariage frère et d'une petite part de banana bread maison. Accompagné d'une petite boule de glace vanille, de quelques morceaux de verre pilé, pourquoi pas. Vous allez me dire, mais qu'a fait cet homme absolument charmant pour avoir l'honneur de se voir attribuer le titre de héros du jour?
Ouais, vous pouvez comprendre. Qu'a-t-il fait?
Merci de votre spontanéité.
J'en prie.
Et bien, il est le co-présentateur d'une toute nouvelle émission de télé-réalité disponible sur YouTube, depuis le 25 avril, dont on pourrait traduire le titre par « Je ne suis pas gay ». On est en droit de se poser la question, ceci dit. Le type en met tellement plein la gueule à la communauté homosexuelle qu'on en vient à se demander s'il ne rêve pas de se prendre ne serait-ce qu'une petite phalange. Moi, j'ai passé des années à dire que je trouvais que la musique de Matt Pokora était inaudible. Bah, en 2021, sa chanson Les Planètes était dans le top 5 de mes chansons les plus écoutées sur Spotify.
Voilà. Quand je danse, quand tu danses,
mais ça, Jérémy Crépil, c'est
vrai. Les Planètes tourne. Pardonne-moi l'indifférence.
Putain, c'est abusé de couper les chansons des gens en soirée. Bon, bref. Oubliez tout ce que vous avez déjà vu. Secret Story, Koh-Lanta, les Marseillais. En Russie, la télévision cherche aussi à élever le débat et à offrir des programmes de qualité à la jeunesse de son pays, puisque le concept de Je ne suis pas gay est de révéler qui est l'homosexuel caché dans un groupe de 8 hommes enfermés ensemble.
Oh, wow.
Un programme qui promet de faire le plein d'ondes positives en ces temps difficiles. Guerre en Ukraine, droit à l'avortement remis en cause aux États-Unis, pourquoi obligatoire pour les femmes en Afghanistan? Vraiment, ça tombait à pic. Alors vous allez me dire, mais comment démasquer une personne homosexuelle dans un groupe d'hommes? Un homosexuel est un individu comme les autres, finalement. Merci de votre spontanéité. Oui. Et c'est là que vous trompez. Réaction d'un candidat à une stripteaseuse ou un stripteaseur. Identification à l'aveugle et au toucher d'un fessier féminin ou masculin. Dodo collectif pour les garçons. Je ne sais pas si c'était l'objectif, mais moi, ça me fait vachement penser au début d'un film porno, tout ça. Mais bon, pourquoi pas. L'émission a manifestement tout mis en place pour démasquer l'intrus. D'ailleurs, Vitaly Milonov est lui-même très investi dans sa mission. Il a déclaré « Chaque jour, j'essaierai d'aider les participants à identifier le maillon faible. » Tremble Laurence Boccolini. Enjeu pour celui qui aura réussi à vilipender l'intrus sur la place publique ou pour l'homosexuel en question qui sera arrivé à ne pas se faire démasquer. 2 millions de roubles, soit 27 000 euros, qui, on l'espère pour lui, seront investis dans un billet d'avion pour quitter le pays. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Merci, ouais. Tristan Lebas. 9 mai, jour de la fête russe en plus. Voilà. De quoi, bonjour Tanguy.
Bonjour.
De quoi parles-tu aujourd'hui?
Je parlais de moi et d'Emmanuel Macron. J'ai comparé nos deux vies, la sienne est mieux.
Et à 13h, évidemment, le journal de 13h. La bande originale avec Léa Cadet, Morgane Delignan, Guillaume Tromaudi, Tristan Lopin, Tanguy Bassureau et nos amis Pierre, bien sûr, Télé Pascal Arbillot.
Vous avez pas le numéro d'Alain Souchon, s'il vous plaît.
Jacques, chaque fois, elle va nous le faire. Jacques, il a pas le portable. Jacques Gamblin, Pascal Arbillot, Pablo, Paoli, Poli.
Poli.
Oui, pouvez-vous me dire comme ça. Agnès Hurstel, Ludovic, tout ce beau monde réuni donc sous la direction de François Usan. C'est un premier film. Comment, Pascal Arbillot, on réagit quand on se retrouve à l'affiche d'un premier long métrage d'un réalisateur? Est-ce qu'on se demande, on demande à voir ce qu'il a fait avant, des cours, des moyens, des fictions, qu'on fait confiance?
Oui, on fait confiance. La rencontre compte beaucoup. La lecture du scénario. Et puis je savais que Jacques Gamblin avait accepté le rôle du mari. Donc j'étais assez emballée l'idée de tourner avec lui. J'aime bien beaucoup l'acteur qui est Jacques. Et après, quand j'ai rencontré François, j'ai beaucoup aimé à la fois son exigence, son côté très travailleur, très précis. C'est un scénariste
méticuleux.
Mmh. Et
qui pourtant laisse de la place à l'impro, comme vous l'avez dit tout
oui,
à l'heure.
Oui, et puis qui a écrit un sujet intime. Alors au service de quelque chose de très efficace, dramaturgiquement, d'une vraie comédie, avec des différentes typologies d'humour, burlesque...
Donc c'est une histoire autobiographique, presque.
Non, mais je pense, une déclaration d'amour folle à ses parents, qui va voir demain, et qui vont voir le film demain, et je pense que ça va être très fort. Déjà, la Peau d'Huès, ça avait été très très fort. Mais c'est extrêmement émouvant, parce qu'il y a de l'intimité, il y a de la vérité dans ce film,
et
partout.
Agnès Hurstel, l'exercice d'être soi-même auteur, d'écrire ou de participer à des scénarios, de faire des seuls en scène, et d'un coup d'être au service d'une autre histoire où on ne choisit pas ses mots, pas ses vannes.
C'est des vacances. C'est génial. Moi, je trouve mon équilibre comme ça, en faisant la moitié de l'année mes trucs à moi, où c'est une introspection de l'écriture, c'est beaucoup. Et quand tu es comédienne, c'est fou, t'es pris en charge. Il y a des gens qui viennent te chercher le matin, on te coiffe, on te maquille, il y a une lumière. Non, mais tu n'es pas.
Oui, ça se voit qu'ils sont plus là. Mais...
Yes. Le stand-up, c'est le pire, c'est seul sur scène. Si t'as un trou, t'as personne pour t'aider. Alors que le cinéma, t'es pris en charge par de la lumière, des axes, d'autres partenaires. Et tu dois juste être en empathie avec le texte, le personnage, le metteur en scène, les autres. Et du coup, te fondre dans le désir de ce qui est écrit. Et le rendre avec la pensée la plus juste possible, en apportant le mieux quand tu arrives à apporter ta zinzinerie à toi.
Être au service de l'histoire et,
ouais, c'est des vacances, c'est génial.
Et être dans le regard et dans le jeu des autres.
C'est génial.
Ça. C'est le plaisir de partager.
Et c'est ça qui muscle ton jeu, qui assouplit ta pensée et qui te permet après d'écrire d'autres trucs.
On sourit pour la photo, l'histoire d'un couple qui se sépare, qui est en train de se séparer. En du moins, c'est la maman qui veut quitter le papa. Si je parle comme ça, c'est parce qu'il y a deux enfants qui sont au milieu et qui vont être aussi détonateurs de ces premières. Enfin, ou de ses vacances, ou reconstitution de vacances 20 ans après, moteur de l'accord de la maman. Elle part en vacances, oui, parce que finalement, elle veut passer une semaine avec ses grands-enfants.
Ça arrive pas tous les jours.
Qui ont une vingtaine d'années. Chacun ayant sa vie professionnelle. L'un, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que l'une est avocate, c'est vous, Agnès Hurstel. Pablo Poli, lui, chaque fois qu'il se présente, il change de nom. Start-upper.
Web-entrepreneur.
Il se cherche.
C'est tellement drôle. Ouais. Non, mais c'est drôle, parce que c'est... il a encore un pied d'un côté, un pied de l'autre, quoi. Il n'est pas totalement sorti de l'histoire, alors que le personnage d'Agnès Hurstel, qui joue, qui s'appelle
Karine.
J'allais dire Claire, non, Claire, c'est la maman. elle veut au contraire réintégrer entre guillemets la famille, c'est-à-dire revenir avec son fiancé en disant maintenant je suis un couple, je suis une grande. Et au milieu de tout ça, Jacques Gamblin très maladroit dans sa manière de reséduire son épouse, parce que
c'est une folie.
Il va cumuler les gaffes, en fait.
Mais oui, mais c'est une folie, mais c'est ça qui est bouleversant aussi, c'est d'arriver d'en arriver là, c'est dingue. Jacques, d'ailleurs, avait peur en disant, mais j'avais l'air complètement débile, complètement fou. Et c'est ça qui est beau dans ce film, c'est qu'il y a une telle névrose et en même temps qui reflète une angoisse peut-être du futur. Je pense que la retraite, c'est un choc. Ouais. Je sais pas.
Non, puis la situation dans laquelle vous étiez au moment du Covid, la situation dans laquelle la planète est globalement maintenant, elle ressemble à ça aussi. À un moment donné, on a l'impression que tout s'écroule.
Bah ouais.
Et on essaie de recoller
des
morceaux.
Et le meilleur moment, c'est le prochain.
Et de s'amuser, voilà, c'est la phrase qui est dite aussi, d'ailleurs, je crois, dans la
bande annonce. Par le beau.
Et construire des souvenirs ou les vivre, savoir quels sont les meilleurs souvenirs, ce sont ceux qui arrivent. On sourit pour la photo. C'est au cinéma et ça a reçu le prix du spécial du jury, au Festival de l'Alpe d'Huez cette année. Voici Tanguy Pastureau.
Samedi, je jouais à Rognac, près de Marseille, et j'ai rencontré un fan, Sébastien. Oui, je sais, quand on connaît les prénoms de ses fans, c'est qu'on en a peu. Ouais. Hein, j'en profite pour saluer Jean-Claude de Nevers, Gilles de Nantes et Martine, qui habite Laval. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Sébastien, à l'issue du spectacle, m'a offert une boîte de calissons d'Aix. Et c'est tellement bon. Les calissons. Ces friandises à la pâte onctueuse qui sentent bon la fleur d'oranger. Ils sont en forme d'amande, comme certains cachets d'ecstasy. Et si on en mange beaucoup, ça fait pareil. On a des hallucinations. On voit ses hanches grossir. Ah, ensuite, quand on court, ça fait comme Pamela Anderson dans le générique d'Alerte à Malibu, ça remue, mais au niveau de la hanche. Si on va assez vite, on peut s'envoler. Moi, sur toutes les années 90, en fait, à la télé, je n'ai regardé que ce générique. Je vous ai découvert, Nagui, en 2000. Tout ça pour dire aux gens qui viennent à mes spectacles sans cadeau, faites pas les chiens. Apportez quelque chose, n'importe quoi. Une télé 4K, du shit que je ferai à Leïla, les clés d'un petit F4 en ville, moi, sauf si je passe à Valenciennes. Hein, parce que la vie d'artiste, c'est triste. On dort dans des hôtels de chaîne, que vous soyez à Mulhouse ou à Rennes, la chambre est la même. Alors qui pourrait faire une déco locale à Rennes? Est allé du vomi dans la chambre avec un étudiant ivre dans le lit en train de se vider qui dirait t'inquiète, je vis ça tous les samedis. À qui vous répondriez on n'est pas samedi, et qui vous dirait on est à Rennes tous les soirs, c'est samedi. Ouais. Moi je vais vous dire, j'aurais préféré être président de la République, on est mieux traité. Je sais pas si vous avez suivi l'investiture de Macron, mais ça avait de la gueule. C'est autre chose que le transfert de la gare à la salle de spectacle dans le Renault Kangoo de la municipalité. Ah bah déjà les invités, Sarkozy, Hollande, Roselyne Bachelot, habillée tout en vert, tout le monde a essayé de lui taxi du fric pensant que c'était la mascotte de 7LM en forme de buisson. Le chien de Macron, Manuel Valls, a voulu lui faire pipi dessus. Mais il était là aussi, il suit Macron partout. Techniquement, c'est un frotteur. Il y avait Édouard Philippe. Alors ça y est, il a totalement blanchi. Il a la vie de l'argent à Monaco. On a aussi vu Jean-Michel Blanquer, le Jules Ferry de la Louse, et Raffarin Pandipanda, comme on l'appelle en Chine, hein, venu avec ses plants de bambou de peur de rien trouver à manger au buffet. Alors, le seul problème, c'est que ce genre de cérémonie, ça fait comme avec le mariage de ton oncle. Il faut aller saluer chaque personne une par une. Macron a salué Hollande, à qui il a chippé sa maison il y a 5 ans. C'est comme si un bulot venait dire bonjour au Bernard Lhermitte en train de glander au fond de sa coquille à lui. Moi, j'ai vu les images. Au début, j'ai d'ailleurs cru que c'était un bulot, parce que Hollande dégage le même charisme. Lui, s'il va aller crier de Concarneau, on le remet dans la glace. Et Macron, qui est très tactile, a fait des câlins, des bisous, des papouilles. Il a pris le visage de Marisol Touraine, une ancienne ministre, entre ses mains. Je me suis dit, ça va finir en chabite avec Gérard Larcher, cette histoire. Jean-Yves Le Drian, pareil, Macron lui a attrapé la tête, l'hôte étant raide, avec le même teint jaune que l'omelette de la mère Poulard. On avait l'impression qu'il tripotait une statue du musée Grévin. C'est le souci avec Le Drian, on le confond avec sa statue. Hein, parfois, à Grévin, une employée la nettoie, il y a Le Drian qui éternue et qui crie, je t'ai déjà dit, pas le plumeau sous le nez, vieille coche. Donc, le public, alors, que des VIP, il y avait aussi des comédiens, Cluzet, Gallienne, ainsi qu'une artiste conceptuelle qui avait fait un happening artistique en se présentant pour déconner à la présidentielle, Anne Hidalgo, qui est arrivée seule, comme d'habitude, hein, parce qu'elle, elle est comme moi, elle connaît les prénoms de tous ses fans. Non, et là où je vous dis que j'aurais aimé être président, c'est pour le faste. Je veux dire, moi, quand je suis arrivé à Inter, on m'a juste filé un pauvre badge, avec une photo de moi, ce qui gâche le côté visuel. J'avais demandé Maria Carré à poil. Hein, mais partout sur le net, on peut choisir son avatar, mais dans la vraie vie, c'est impossible. Tu te tapes ta tronche sur tous les documents. Mais si c'était pareil sur Tinder, ce serait atroce. Il ferait comment les satires de 70 ans pour trouver une petite jeune? Mettre sur son profil, je suis Jean-Pierre de Reims, il me reste 3 dents, moins qu'un castor qui s'est pris une bûche.
c'est moins vendeur que de mettre Enzo, 21 ans, modèle, avec une photo de mannequin à Abercrombie datant de 2009. Mais là, à l'Elysée, mais tout n'était que dorure. On serait cru à un mariage tunisien. J'attendais les you-you. Il y a même eu un militaire, je sais pas qui c'est, qui a offert à Macron un collier en or énorme, le même que Jay-Z dans les vieux clips, avait gravé le nom de tous les présidents. C'est-à-dire que si Macron a Alzheimer, il pourra pas faire comme nous avec notre gourmette qu'on regarde et où on se dit, ah, je suis Patrick. Non, il va débarquer un jour en Conseil des ministres et dire, hello, moi c'est Pompidou, mais vous pouvez m'appeler Georges. Chaque président a droit à son nom sur un maillon du collier et il ne reste que deux maillons. Donc celui qui est élu en 2042 aura un pendentif Pandora avec trois charms au choix. Bref, la vie d'Emmanuel Macron est mieux que la mienne. Hier encore, il a remonté les Champs-Élysées en voiture 3 minutes. Hein, moi, sur Waze, on me dit une demi-heure. Bon. Hein, je suis donc malheureux. Et j'appelle mon public de ce jeudi à Guy Pavard, près de Brest, à me faire plein de cadeaux. Ah. Comme Sébastien samedi, si je repars pas de là-bas avec 80 phares au pruneau, je m'engage en politique et il y a suffisamment de tocards dans ce secteur d'activité pour en foutre un de plus. Alors, vive la France.
Merci. Vous n'avez pas réagi, Pascal Arbillot, sur l'agression de votre ancien professeur, François Hollande, faite à l'instant.
Non, je ne dis plus rien, faut faire attention maintenant, c'est horrible. Hein.
Que nous avions eu en ligne, vous souvenez, dans cette émission,
il y avait la gentillesse
d'être...
Je ne savais pas, parce que sinon j'aurais écrit autre chose.
Oui, c'est ça. Oui.
J'aime pas blesser les gens.
Mais jamais de la vie. On va à nouveau parler de On sourit pour la photo dans quelques instants, mais dans la culture, justement, Leïla, d'autres choses.
On vient d'apprendre que le 17 septembre prochain, le site historique de la Bibliothèque nationale de France allait rouvrir. C'est une très bonne nouvelle. Combien de livres sont concernés par ce déménagement?
2. 7.
Oui. Beaucoup plus que vous.
Ah, 10 000.
Non.
Des millions.
Quoi?
Non, attends, redis la particularité de ces livres.
C'est la Bibliothèque nationale de France.
C'est énorme. Bah,
2500.
Mais non, 15 millions, des millions, des millions.
Ils en ont beaucoup.
Donnez un chiffre.
100 000.
Non.
Bah, dis 3
milliards.
Dis plus que 100 000, 200 000.
Allez, 1 million.
3 milliards.
Moins Agnès.
9 millions.
Plus Agnès.
12 millions.
Plus
20 millions. 27 millions.
Bonne réponse de Pascal. 20 millions de bouquins.
Mais ils ont le temps de lire tout seul, mec.
Voilà un déménagement dantesque, vous imaginez. Ouais. On n'a pas forcément envie d'être appelé pour déménager sur ce coup-là.
Si, au contraire, déménageur breton, t'imagines.
Ça a coûté plus de 2 millions d'euros. C'est colossal. Oh. Avec des personnes à plein temps, bien entendu, pour organiser ce déménagement, pour ensuite remettre en place ces systèmes d'informatique qui sont très pointus. Un nombre donc incalculable d'heures pour replacer ensuite à la main, livre par livre, dans les rayons.
Par ordre alphabétique.
Alors ça, je sais pas comment c'est classé nécessairement selon les collections ou pas.
Par numéro de
série.
Et on va le mettre par taille. Les petits là, les grands là-bas.
Par collection. Tout ça pour vous demander un conseil lecture à toutes les deux. Je sais que vous lisez toutes les deux. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ou qu'est-ce que vous venez de lire qui vous a particulièrement plu? On peut pas parler de tous les livres, Agnès, parce que on fait partie d'un jury avec Agnès.
Les 8 derniers que j'ai lus, je peux rien dire.
Alors on va, on fait partie d'un jury ensemble. On peut en parler. C'est le prix de la passion et on aura bientôt le nom du lauréat. Voilà.
Je suis en train de lire un livre israélien qui s'appelle My First Sony sur un petit garçon qui, pour calmer les névroses de son enfance et de sa famille, enregistre tout sur son magnétophone Sony. Et c'est incroyable. Mais j'ai pas encore fini.
C'est une névrose.
C'est fou, c'est génial. C'est un truc obsessionnel. Okay,
d'accord. Et vous, Pascal?
J'aurais lire un bouquin anglais, mais je me souviens pas du... Le titre, c'est en gros l'histoire de la fille qui voulait pas se lever, qui se lève plus de son lit.
Voilà, genre une sorte d'Oblomov, quoi, qui reste allongé.
Un Oblomov féminin, moderne. Exactement. Okay. Exactement. Qui est un fantasme que j'ai depuis longtemps.
Moi aussi.
Je rêverais de décrire une histoire à ce sujet.
Moi, je préférerais rester allongé tout le temps. Après, on peut écrire allongé,
mais extraordinaire.
Rester allongé.
Mais non, tu
t'en fous.
Lisez Oblomov,
c'est un 30 minutes.
C'est
sûr. Ça dépend combien on est.
Oui, autre question. Quelle est la particularité du prochain film Marvel, El Muerto?
Ils sont morts.
Le personnage principal est mexicain.
Et latino, absolument.
Ils volent par-dessus le mur.
C'est le premier film Marvel dédié à un personnage latino. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est important pour les imaginaires qu'on projette, pour les enfants, pour les portes qui s'ouvrent éventuellement. Le super-héros El Muerto est un catcheur doté de super-pouvoirs qui proviennent de son masque de lucha libre, en gros. Tout ça pour se demander si le cinéma est toujours un peu en retard et un peu à la bourre sur la société. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de l'intérieur? Agnès lève les yeux au ciel.
Oui, non, mais on en a déjà parlé à ce micro. Je me permettrai pas de dire des choses sur le cinéma parce que je maîtrise un tout petit moment, mais dans les fictions de séries télé, par exemple, c'est super de créer des personnages comme il y a dans Fleabag, comme ouais. des héroïnes féminines un peu rugueuses et un peu différentes. Donc je dirais pas que oui, la fiction elle est toujours un tout petit peu en retard en France. C'est pas le cas en Italie, par exemple. Ils vont beaucoup plus vite que nous à parler de l'histoire récente, machin.
Et je suis étonnée au théâtre aussi. Les rôles féminins, souvent les rôles féminins sont désespérants.
Oui, oui, c'est les parce que le théâtre reste un art. Enfin, après,
les partitions à jouer sont pas très, très intéressantes.
On voit un peu les auteurs vivants.
Et oui, il y a peu d'auteurs vivants. Alors après, il faut aller voir. Il y a quand même des nouveaux auteurs.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais même quand il y a des auteurs.
Ah oui, c'est ça.
On a retrouvé le
livre. On a retrouvé le titre. Ah ouais, c'est ça.
Sue Townsend.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est super.
La femme qui décida de passer une année au lit.
Ben voilà, une année. Moi, j'aime bien l'idée. Une année. Pas la vie, mais une année.
C'est pas pareil.
Ah ouais.
Ça réduit le champ
des
possibles.
Une année, c'est bien.
Donc, est-ce que vous pensez que
c'est calibré aussi à l'inverse? Maintenant, il y a le communautarisme. À chaque. Maintenant, on fait aussi de la création.
Pour femmes.
Oui, mais qui est un petit peu trop.
Faut trouver le juste milieu.
C'est pas ça, c'est que je trouve
les
que.
Les quotas.
Si, voilà, c'est que ça change dans la vie, en fait. Pour que ça arrive au cinéma, il faut que ça change dans la vie aussi.
Parfois. Ça fasse plus sens.
Mais est-ce que c'est ce qui peut éventuellement vous donner pas forcément envie de retourner au théâtre tout de suite? Pour trouver le bon texte.
Ça, au théâtre, c'est sûr que là, il faut un bon texte. Parce que c'est trop dur, c'est trop prenant.
Et là, il n'y en a pas des bons textes.
Je suis en train de. Si, ça arrive. Qu'on va peut-être écrire même.
Écrire directement.
Oui, pas moi, mais que.
Sur mesure.
Oui, sur mesure.
Parce que finalement, il faut peut-être ça.
Je pense qu'il faut passer à l'action, se produire soi-même. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est acteur, on n'a pas envie de s'occuper de soi, justement.
Ce que fait Agnès avec Jeune Galerie.
Oui, exactement. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, j'y viens petit à petit.
C'est un peu votre truc avec l'ami des chasseurs.
Oh, mais oui.
Bah alors,
tout à fait. Racontez. J'ai adoré faire ça. J'ai postulé, j'ai demandé, j'avais jamais fait ça de ma vie, à éventuellement pouvoir participer à l'opération des talents à Dami, où ce sont des acteurs
qui réalisent
et mettent en avant chacun trois acteurs émergents, comme on dit. Et on m'a appelé en septembre en me disant c'est bon, c'est toi pour le mois de mai. Super.
On en parlera avec Déborah François et Raphaël Personnal la semaine prochaine pour en parler.
Mais super.
Alors, vous, vous avez écrit, réalisé à partir d'un script déjà existant? Comment s'est passé?
Non, on m'a appelé assez tard, mais cette année, c'est la première fois qu'on nous a associés avec des scénaristes qui nous ont aidés à, en fait, un peu expectorer nos envies, nos désirs. Et moi, j'avais un fantasme de filmer dans un parc d'attraction désaffecté. Je trouve que c'est des décors extraordinaires, très, très cinématographiques, faux, carton-pâte, en même temps réel. C'est la société de consommation et en même temps, c'est une poésie folle. Et d'un coup, je me suis dit, il faut que je mette trois acteurs là-dedans. Et donc, j'ai écrit, j'ai rajouté un animal sauvage. Enfin, j'ai fait la chose la plus difficile sur 3 jours. J'ai tourné en extérieur 2 nuits avec un sanglier,
animaux.
Mais c'est tout avec 3 acteurs extraordinaires. C'était merveilleux aussi de caster. C'était terrible de ne pas prendre certains acteurs qu'on adore, mais ils ne sont pas le rôle. Et c'est comme ça. Donc, grande leçon d'humilité pour moi aussi en tant qu'actrice. Parfois, on ne me prend pas. Mais c'est parce que je ne suis pas le rôle. Ou basta, quoi.
Et il y a une référence à La Nuit du Chasseur ou...
Bien évidemment. Déjà... J'ai essayé de reproduire. Moi, c'est un de mes films. Le mec a fait un film. Hein. Du génie. Il y a des plans encore d'amorces d'animaux.
Mais
des plans
peur,
mais c'est. Alors, j'ai pas du tout reproduit. J'ai essayé. J'avais un plan. Je fantasmais d'un animal en amorce. J'ai pas pu le faire parce que c'était trop. Elle a pas assez de temps. Et puis voilà. Mais ouais, c'est un petit clin d'œil à ce petit chef-d'œuvre. Absolu.
Et Pascal Arbillot qui dirige les comédiens, ça donne quoi?
Je sais pas, faut leur demander. J'étais assez tyrannique. Enfin, surtout c'est comme on avait, non pas tyrannique, mais très, on n'avait pas beaucoup de temps. Ouais. J'étais là, mais attends, il est 8h25, tu veux pas commencer à fumer une clope? On tourne à 8h30, j'étais très très dur. Et plus jamais je ferai attendre un tournage, quoi. Enfin, même pas 2 minutes. Enfin, service, quoi.
Vous serez à l'affiche du Chemin du Bonheur de Nicolas Stein,
un film que j'aime beaucoup.
Abkarian.
Qui est un acteur que j'adore aussi.
Et le toujours en juin, mois chargé, décidément. Irréductible de Jérôme Commandeur.
J'ai adoré faire ça aussi. C'est complètement autre chose. Alors là, c'est le rôle est jubilatoire, d'inspirer du travail insupportable. Avec des. Mais j'ai eu des fous rires monstrueux avec Gérard Darmon, qui est quand même un génie de la comédie. Il y a plein de moments d'anthologie dans le film, de Valérie Le Mercier, de Pardieu, Clavier, et puis Commandeur qui est d'une telle intelligence, drôlerie et populaire.
Et qui est à l'Olympia, là, pour.
Oui, je l'ai vu sur le spectacle, c'était dingue. C'était dingue.
Il était il y a 15 jours.
Ah, d'accord.
Okay. Je ne savais pas quoi dire.
Dis la vérité, c'est plus simple.
Oui, mais je ne savais pas si
à moins qu'il soit revenu entre temps.
Il revient en juin, mais
il est déjà passé.
Et Maestro.
Qu'est-ce que... Ah oui, c'est le film de Bruno Chiche.
Avec Yvan Attal et Pierre Arditi.
Ouais. C'est très très beau aussi. Ouais, très très beau. En novembre, ça... la fille qui découvre à chaque fois.
N'arrête pas. Et vous rêvez de faire ce que font Agnès, Morgane, Guillermo, Tristan.
Des chroniques sur Inter.
ou encore Tanguy. Non, un seul en scène.
Peut-être un seul en scène, mais pas que j'aurais écrit. J'ai pas. Oui, un seul en scène. Le principe du monologue, d'être seul face à un public. Oui, c'est quelque chose qui m'excite un petit peu.
Mais alors pas forcément, ça peut être une pièce.
Oui, une pièce. Oui, d'accord. Oui, okay. J'ai deux trois pistes.
Pardon,
aussi.
Je croyais que c'était un stand-up ou.
Non, j'ai pas du tout envie de dire je sur scène. Mais d'accord. Ça, chacun sait.
Ah, alors que eux, ils ne font que ça toute la journée.
Non, moi, je dis il comme ça à troisième personne. ça passe très bien.
Je crois que tu disais elle.
Pourquoi pas, Madame Fred.
On sourit pour la photo. C'est au cinéma ce mercredi. Des excuses à présenter, celle qui est la marraine des chômeurs salés de Guérande.
Désolée pour Brigitte Bardot qui m'a appelée à la pause pour me dire qu'elle s'opposait totalement à l'adoption d'un animal vivant par Guillermo Guise. Brigitte, je vous rassure, il a changé d'avis, va adopter Tristan Lopin. Désolée une fois de plus pour les programmateurs musique de France Inter, des pros que le métier nous envie pour la qualité et la finesse de leur sélection et qui ce matin ont eu le droit à La Rousseau, à Matt Pokora,
deux fois même.
Eh ben on l'a vraiment bien salopé.
Non, attends.
Je vais survivre.
Ben Mazuet. Tant que je sais comment on aime, je sais que je vais survivre.
On l'a salopé cette antenne, à part Ben Mazuet. Mais bon,
merci.
Pas grave, on oubliera si c'était en avril, en septembre ou en juillet. S'il faisait du soleil ou si la pluie tombait. Et enfin, désolé pour Ed Sheeran et vous chez vous. Le prince Harry et tous les roues ont découvert à cause de Pascal Arbillot ce matin qui ne pourrait pas aller en Grèce ou dans tout ce qui ressemble à un pays chaud cet été. Je conseille donc l'Écosse, Ouistreham ou l'appartement de Guillermo Guise, bref, du sombre.
Merci Morgane Cadignan, merci Pascal Arbillot, merci Agnès Hurstel au cinéma aux côtés de Jacques Gamblin, Pablo Poli, je vais y arriver, et Ildevic, tout ça, avec la réalisation de François Usan, ça s'appelle On sourit pour la photo. Demain, autre film avec Agnès Hurstel, c'est la semaine Agnès.
Je dors ici.
Puisque c'est coupé avec un Z devant être le premier titre, et Michel Hazanavicius a eu. L'intelligence de dire, avec tous ces aides inscrits sur les chars russes qui sont en train de détruire l'Ukraine, il n'est pas question d'en faire un film. C'est devenu coupé avec un grand Z.
Et le film est génial.
Et on en parlera demain avec Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius.